Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Avec les autres élèves de ma classe, on a discuté, on s'est dit qu'aujourd'hui on allait laisser tomber et qu'on verrait demain. C'est pas super quoi.
Pas super, l'école à la maison, surtout quand les plateformes pour suivre les cours à distance jouent les mauvais élèves, bugs à répétition, serveurs saturés dans plusieurs régions et même cyberattaques selon Jean-Michel Blanquer. Tout est résolu, assure ce soir le ministre de l'Éducation nationale. Grosse affluence au Stade de France, le plus grand vaccinodrome du pays a ouvert ses portes aujourd'hui et il n'y avait que des sourires à la sortie. Ils n'ont reçu qu'une dose d'AstraZeneca, puis les règles ont changé. Comment va se passer le rappel pour les moins de 55 ans vaccinés avec le sérum controversé? Ce sera peut-être du Pfizer ou du Moderna. Dans ce journal également, la reprise des fouilles dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Nouvelle recherche à la lumière des révélations de l'ex-femme de Michel Fourniret. Le retour du grand froid et des astuces pour éviter le gel des vignes. Hélicoptères, bougies et tisane au programme. Et puis le foot, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un PSG décimé défiera demain soir un Bayern Munich, lui aussi amoindri. La météo, elle va s'illuminer demain, retour du soleil sur une grande partie du pays. Mais attention, les températures vont encore chuter, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,47% à 6131 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview Echo, dans 20 minutes, l'État va redevenir l'actionnaire majoritaire d'Air France. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Martin Vial, le président de l'Agence des participations de l'État. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La fatigue ce soir pour des millions de parents qui ont redécouvert les joies de jongler entre télétravail et école à la maison. Premier jour d'enseignement à distance, une saison 2 qui, comme au printemps dernier, a connu des débuts laborieux. Bugs en série et saturation des serveurs, au moins 6 régions ont été touchées. Mais ce soir, Virginie Riva, ça commence doucement à revenir à la normale.
Oui, ce soir on peut se connecter, mais rien n'est fluide. Île-de-France, Centre, Hauts-de-France, Normandie, partout on peut entrer dans le serveur, mais pas utiliser la messagerie, ou bien on est rapidement déconnecté. Alexia est en terminale, elle a décidé de baisser les bras pour aujourd'hui.
Nous, on a créé des groupes avec les autres élèves de ma classe. On a discuté, on s'est dit qu'aujourd'hui on allait laisser tomber et qu'on verrait demain. C'est pas super quoi.
Des bugs à la fois sur les environnements numériques de travail, ces plateformes d'échange mises à disposition des régions et des départements, utilisées à l'échelle de l'établissement par les professeurs et les élèves, et sur le dispositif CNED, Ma classe à la maison, sorte de classe virtuelle. Jean-Michel Blanquer a tenté de s'en expliquer ce matin.
Sur ce qu'on appelle les environnements numériques de travail, ça dépend des collectivités locales, qui dépendent d'un opérateur privé qui a eu un incendie à Strasbourg il y a quelques temps, et donc qui a pas pu faire face à l'afflux de connexion ce matin. Par ailleurs, vous avez des attaques informatiques, c'est le cas de ce qui se passe pour le CNED ce matin, apparemment venu de l'étranger.
Sur ces attaques à ce stade, pas plus d'informations quant à leur origine. Et sur la question des serveurs, tout le monde se renvoie la balle. Le groupe OVH, clairement ciblé ce matin par le ministre, fait depuis savoir que les problèmes n'ont rien à voir avec l'incendie de Strasbourg. Et pour la région Île-de-France, le problème viendrait plutôt de l'éditeur de contenu qui fournit aussi les Hauts-de-France et l'Aquitaine.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Des bugs qui n'ont pas empêché Emmanuel Macron de se connecter cet après-midi au site du CNED. Le chef de l'État a échangé en visioconférence avec des élèves de 3e d'un collège à Oraison dans les Hautes-Alpes. Une intervention en plein cours d'histoire géo. Écoutez.
Bonjour à vous et bonjour à tous vos élèves. Bonjour à tous.
Bonjour.
En tout cas, merci beaucoup de m'accueillir quelques instants. Je voulais vraiment vous remercier, à travers vous, remercier également vos parents. C'est important de continuer, de perdre le moins de temps scolaire possible durant cette période. On doit freiner le virus, mais continuer à apprendre. Moi, je tiens beaucoup à ce que l'école reste ouverte au maximum. On pense quand même qu'on aura, par cet effort collectif, là, des 4 prochaines semaines, bien freiné le virus un peu partout. Et puis, on aura continué d'accélérer la vaccination, ce qui nous permettra d'être dans une situation plus confortable et de continuer cette course de vitesse en quelque sorte, de prendre le virus en tenaille entre les mesures de freinage, que vous connaissez bien maintenant, et la vaccination. Et donc je pense que jusqu'à la fin de l'année scolaire ensuite, il ne devrait pas y avoir à nouveau de confinement.
Il ne devrait pas y avoir un nouveau confinement. L'échange donc cet après-midi entre Emmanuel Macron et des collégiens des Hautes-Alpes. C'était aussi le jour J pour la vaccination au Stade de France. Le plus grand vaccinodrome du pays a ouvert ses portes ce matin. Un événement très attendu en Seine-Saint-Denis, département le plus touché par le virus actuellement. Et notre reporter Yasmina Katou a passé la journée sur place et a rencontré des nouveaux vaccinés soulagés.
Sous les gradins du Stade de France, une trentaine de boxes de vaccination sous des chapiteaux blancs. Nordine, 70 ans, attendait avec impatience de se faire vacciner. Dans ses mains, un précieux sésame.
Et là, maintenant, vous avez votre petit papier qui dit que vous êtes vacciné.
Voilà, je suis vacciné. C'est un soulagement parce qu'on a aussi des petits-enfants et qu'on a envie aussi de rencontrer la famille. Donc, ça nous permet aussi de...
De reprendre une vie normale, en fait.
Oui, oui, c'est ça.
Dans les box, les vaccinations se font à la chaîne. À 22 ans, Majeb, étudiant en médecine, voulait rassurer ses patients en gériatrie.
Je suis bien avec monsieur Essi de Majeb.
C'est ça.
Vous êtes professionnel de santé?
Oui.
Okay. Je pourrais voir la fiole.
Qu'est-ce qui est écrit, alors?
Pfizer.
Rassuré?
Ouais, rassuré.
Et puis, sous les chapiteaux, il y a d'autres candidats au vaccin, pourtant non éligibles. Jean a reçu le précieux sérum à...
64 ans.
Mais à l'intérieur, ils vous ont pas embêté pour vous dire que vous n'avez pas de comorbidité ou quoi?
Non, non. Ils m'ont juste demandé mon âge, si j'avais, comme vous dites, la comorbidité. J'ai dit non, et puis ça s'est bien passé. Non, ils m'ont pas embêté du tout.
Et le rendez-vous pour la deuxième dose est déjà pris à midi, le 5 mai prochain.
Yasmina Katou, au Stade de France pour Europe 1. Au total, une quarantaine de vaccinodromes ont ouvert leurs portes aujourd'hui et sont en passe de le faire. Début également ce mardi des vaccinations dans les hôpitaux militaires. Concernant le vaccin AstraZeneca, l'Agence européenne des médicaments indique ce soir qu'elle n'a pas encore abouti à une conclusion sur un lien entre ce sérum et de rares cas de thrombose. Réaction en urgence de l'EMA après les propos catégoriques ce matin de l'un de ses responsables pour qui, oui, le lien est bel et bien avéré. En attendant d'en savoir plus, reste une question. Que faire avec ces 600 000 Français de moins de 55 ans ayant déjà reçu une dose d'AstraZeneca? Vont-ils, oui ou non, en recevoir une deuxième? Interrogation légitime, Anne Le Gall.
Oui, parce que depuis mi-mars, en raison d'un doute sur un risque de thrombose très rare survenant chez des personnes jeunes, fini les injections d'AstraZeneca pour les moins de 55 ans. Cette décision des autorités sanitaires était tombée alors que depuis un mois et demi, les injections se faisaient dans cette catégorie d'âge pour les personnes fragiles ou le personnel soignant. Et pour les premiers vaccinés se pose donc la question du rappel 9 à 12 semaines plus tard. Et là, c'est le grand flou, explique cette pharmacienne de 51 ans. Elle a reçu sa première injection d'AstraZeneca il y a 3 semaines.
On n'en sait rien, on ne sait pas. On attend les nouvelles recommandations. Pour moi, ça va être une vaccination au mois de juin, donc j'ai le temps. Mais il y a des soignants qui ont été vaccinés début février et on ne sait pas quoi faire.
Et pas question de se passer d'un rappel, indiquent les experts, car l'efficacité vaccinale n'est pas suffisante avec une seule dose. La commission vaccin de la Haute Autorité de Santé planche donc actuellement sur une solution alternative. Ce pourrait être d'utiliser un vaccin à ARN messager au moment du rappel. La combinaison des deux serait très efficace, mais faudra t-il alors prévoir une ou deux injections? La HAS devrait trancher dans les jours qui viennent.
Merci Anne Le Gall. Aux États-Unis, la vaccination pour tous, c'est pour bientôt. Joe Biden va annoncer ce soir que tous les adultes seront éligibles au vaccin d'ici le 19 avril, soit une dizaine de jours avant l'objectif initial. Près de 20% des Américains ont d'ores et déjà reçu les deux doses. C'est 4,6% en France. Notez également la forte hausse du nombre d'admissions dans les hôpitaux. 5626 patients sont ce soir en réanimation. C'est près de 200 de plus en seulement 24 heures. La barre des 30 000 malades du Covid hospitalisés a également été franchie.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
Les fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin ont repris aujourd'hui dans les Ardennes. Nouvelle recherche à la lumière des déclarations de Monique Olivier. Pour la première fois, l'ex-femme de Michel Fourniret a déclaré à la juge qu'elle a vu la fillette vivante le lendemain de sa disparition en 2003. Elle lui aurait parlé et aurait participé à sa séquestration durant plusieurs heures. Le tueur en série aurait ensuite mis fin au jour de la petite fille et l'aurait enterrée dans une forêt en compagnie de Monique Olivier. Des aveux qu'attendait depuis longtemps maître Didier Seban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin.
Jusque-là, elle s'était cantonnée dans une version disant qu'elle était simplement informée, mais qu'elle avait créé l'alibi, mais qu'elle n'avait pas participé. Et je crois que là, il y a eu un tournant. Ce sont des aveux de sa participation, mais tous les meurtres de Michel Fourniret, ou presque, ont été commis à quatre mains. C'est Monique Olivier qui a été sa muse criminelle, si j'ose dire. Il avait besoin d'elle, et donc... C'est à elle qui racontait tout, c'était elle qui était son miroir. Évidemment, Michel Fourniret ne peut plus parler aujourd'hui, il est muré dans une maladie mentale qui fait que je crois qu'on ne tira plus rien de lui. L'espoir, c'est Monique Olivier, pour qu'elle puisse nous aider à retrouver Estelle.
Maître Didier Seban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin, avec Marion Dubreuil pour Europe 1. La justice n'en a pas terminé avec le scandale du Mediator. Le parquet de Paris a fait appel aujourd'hui de la relaxe partielle des laboratoires Servier. Ils avaient la semaine dernière été condamnés à une amende de 2,7 millions d'euros pour tromperie aggravée et homicides et blessures involontaires. Mais le groupe pharmaceutique avait en revanche été relaxé des délits d'obtention indue, d'autorisation de mise sur le marché et d'escroquerie. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte concernant la messe de Pâques sans geste barrière célébrée samedi à Paris. Dans une vidéo postée sur Internet, on y voit des fidèles et des prêtres sans masque, sans respect des distances, le tout dans une église pleine à craquer. Le diocèse de Paris se dit stupéfait de ces images et promet des suites en interne. Stupéfait, vous l'avez peut-être été ce matin en sortant de chez vous, stupéfait par le froid glacial qui s'est abattu sur le pays. À Beauvais, par exemple, il faisait près de moins 7 au lever du soleil, alors qu'il y a 6 jours, le mercure était monté à 25 degrés dans la ville de l'Oise. Un grand écart que n'apprécient pas du tout les plantes qui ont commencé à bourgeonner. Ce coup de froid tombe au pire des moments. Alors pour éviter que toute leur production gèle sur pied, arboriculteurs, maraîchers et viticulteurs cherchent la parade, Johanna Chabat.
Oui, dans presque toutes les régions de France, la principale méthode sera de réchauffer l'air autour des récoltes. Pour y arriver, Sylvain Thiollier, viticulteur en Savoie, prévoit une solution originale, faire voler un hélicoptère au-dessus de ses vignes.
Là, le principe, c'est de brasser l'air plus chaud en altitude pour remplacer l'air froid qui s'accumule en bas de parcelle. Donc souvent, on fait ça au lever du jour parce que c'est souvent là qu'il fait le plus froid. Si on se met à plusieurs, qu'on le fait voler sur une dizaine d'hectares, finalement, ramener à l'hectare, ça va être autour de 200 euros.
Alors pour éviter ces dépenses, d'autres préfèrent préparer leurs plantes en amont. Gauthier Roussille possède 6 hectares de chardonnay bio près de Mâcon. Pour cet épisode de gel, il a déjà aspergé ses vignes de tisane. Et oui, ça permet de renforcer les défenses immunitaires de la plante.
On va asperger cette tisane sur la vigne. En pénétrant dans la vigne, il va permettre de concentrer la sève et donc abaisser le point de congélation. Donc ça va permettre de résister à 1 degré ou 2 degrés de plus de gel. Si la température ne descend pas en dessous, ça permet aux bourgeons de survivre et donc de sauver la récolte.
Si ce n'est pas suffisant, il lui reste, comme pour beaucoup d'agriculteurs, les bougies. Ces petits feux créent un manteau de chaleur au pied des plants. Mais à 3000 euros l'hectare, cette solution coûte cher.
Johanna Chabas, ce pourrait être une révolution dans le monde de la santé. Le groupe Urgo, installé près de Dijon en Côte d'Or, veut recréer de la peau artificielle. Ce serait une prouesse médicale. Et pour y arriver, Urgo n'a pas lésiné sur les moyens, Carole Ferry.
Effectivement, oui, c'est un investissement de 100 millions d'euros qui a même été salué dans un tweet par le président Emmanuel Macron. Il parle d'une grande fierté. L'État a d'ailleurs participé à hauteur de 22,8 millions. L'idée, donc, concrètement, c'est de recréer de la peau artificielle. Aujourd'hui, quand il faut faire une greffe, on prélève de la peau ailleurs sur le corps du patient. C'est très fréquent, notamment chez les grands brûlés. Et forcément, eh bien, ce serait une révolution d'avoir une sorte de vraie peau à greffer comme un pansement, sauf que c'est extrêmement compliqué à reproduire. Le groupe Urgo Médical n'est d'ailleurs pas le premier à tenter le pari, mais son président Guirec Leloup est convaincu qu'il a tous les atouts nécessaires pour réussir. Il était l'invité de La France Bouge ce midi sur Europe 1.
On pense qu'on peut y arriver parce qu'on s'est entouré d'une dream team française, des meilleurs chacun dans leur domaine, un consortium. Par exemple, il y a le laboratoire, le LBTI, qui est un laboratoire spécialisé dans la plaie, quelles sont les molécules, les cellules qui fonctionnent et qui aident à la cicatrisation. Et on a aussi des acteurs un peu plus originaux, comme par exemple Dassault Systèmes, qui va nous aider à modéliser le comportement du corps humain pour aller plus vite dans le développement du produit.
Alors là, tout se met en place, mais il faudra du temps pour voir si ce consortium réussit son pari, sans doute au moins une dizaine d'années.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. On termine avec le foot, avec le début ce soir des quarts de finale de la Ligue des Champions. Deux matchs sont en cours, Real Madrid-Liverpool. Les Madrilènes mènent 2-1 pour l'instant. Et Manchester City-Borussia Dortmund, là ce sont les Anglais qui sont devant à 0, 57e minute de jeu. Demain, le Paris Saint-Germain se déplacera à Munich pour y affronter le Bayern tenant du titre, revanche de la finale perdue par les Parisiens en août dernier. Julien Froment, quels sont les dernières nouvelles d'un côté comme de l'autre?
Alors tout d'abord, du côté du Paris Saint-Germain, l'entraînement s'est terminé en début de soirée. Pas de nouveaux bobos. Pour rappel, 5 joueurs majeurs sont absents. Marco Verratti et Alessandro Florenzi ont le Covid. Léo Paredes est lui suspendu. Enfin, Lewin Kurzawa et Mauro Icardi sont blessés. Un PSG amoindri, mais qui veut croire en ses chances de qualification, le capitaine Marquinhos.
L'état d'esprit, c'est le meilleur possible. Les grands matchs, quand ils arrivent, on est toujours très motivé pour affronter ce genre de d'adversaires et jouer contre des grands joueurs. C'est une équipe qui est au top de sa forme, qui sont aussi invaincus en Champions League. Alors, il faut qu'on fasse un très grand match pour sortir avec un bon résultat d'ici.
Et du côté du Bayern, eh bien là aussi, on affiche une confiance typiquement munichoise, même s'il y a quelques petits grains dans la belle mécanique allemande. On l'a appris en fin de journée, l'Allemand Serge Gnabry, censé remplacer Lewandowski blessé, est positif au Covid et donc forfait. C'est un vieil ami du PSG, Éric-Maxime Choupo-Moting, qui devrait débuter demain soir à la pointe de l'attaque. Espérons pour Paris qu'il ne respecte pas la tradition qui veut qu'un ex marque contre son ancienne équipe.
Merci Julien. Julien Froment qui nous fera vivre ce match demain soir en direct et en intégralité. Émission spéciale à partir de 20h aux côtés de Lionel Rousseau. Et puis notez Kander Herrera, le milieu du Paris Saint-Germain, sera demain matin à 7h30 l'invité de Mathieu Béliard sur Europe 1. La météo, Anissa Haddadi, au programme demain, un temps plus calme mais plus froid.
Oui, c'est ça qu'il va falloir retenir effectivement pour demain, Julien. Les températures, elles baissent encore avec de plus en plus de gelée matinale. Nous aurons moins 9 degrés à Orcières dans les Alpes, moins 6 à Nevers, moins 5 pour Auxerre, moins 3 degrés à Périgueux et Poitiers, moins 2 à Belfort et Clermont-Ferrand, moins 1 à Paris et La Rochelle, 0 degrés à Nantes et Lyon, 6 à Nice et 7 pour Ajaccio. Alors demain matin, sur les Alpes, le Jura, les Vosges et le Massif central, les flocons tombent mais uniquement en altitude. On ne devrait plus voir de flocons en pleine demain. Malgré le froid, ce temps reste tout de même calme, sec et très ensoleillé sur toute la France. Attention, nous avons toujours cette bise qui souffle sur la moitié nord, qui fait aussi baisser les températures. C'est sur la Côte d'Azur et la Corse, hein, demain, que le temps sera le plus instable, avec des flocons à partir de 400 mètres. Dans l'après-midi, sur le Cotentin, l'Alsace, le Sud-Est et la Corse, nous avons dans toutes ces régions un ciel gris menaçant avec toujours le Mistral et la Tramontane qui soufflent jusqu'à 80 km/h dans le sud. Partout ailleurs, c'est quand même le soleil qui l'emporte dans un froid glacial puisque nous aurons seulement 7 à 11 degrés sur la moitié nord, 7 à Dunkerque, 9 à Lille, 10 à Paris et puis 11 à 16 degrés dans le sud, 13 à Nice, 14 à Biarritz, c'est dans le sud hein, que ça baisse bien demain et 16 degrés la maximale pour Montpellier.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Claire Lemaître de boursier.com avec un CAC 40 en grande forme, suivi de l'interview écho. L'État va redevenir l'actionnaire majoritaire d'Air France. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Martin Vial, c'est le président de l'agence des participations de l'État. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street termine dans le rouge. Les marchés américains reprennent leur souffle après avoir battu hier de nouveaux records.
Oui, c'est du rouge pour le Dow Jones, moins 0,29%, 33 430 points. Le Nasdaq aussi est en baisse finalement, un tout petit repli de 0,05%, 13 698 points. Petite pause donc, mais on reste au plus haut en bourse grâce aux espoirs de reprise économique. Des espoirs confirmés par le Fonds monétaire international qui a revu en hausse ses prévisions de croissance mondiale aujourd'hui. La croissance devrait bondir de 6% cette année après la crise sanitaire. Et le moteur, ce sont les États-Unis grâce à la vaccination et à une campagne qui avance à grande vitesse. Et puis bien sûr grâce au plan Biden de relance.
Les valeurs technologiques, quant à elles, ont terminé en hausse ce soir à Wall Street.
Petite hausse, Apple gagne 0,2%, du vert aussi pour Tesla, plus 0,3%. Le patron du constructeur de voitures électriques, Elon Musk, grimpe de la 31e à la 2e place dans le dernier classement mondial des milliardaires établi par le magazine Forbes. Le numéro 1, c'est encore Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Le titre Amazon gagne un petit 0,1% ce soir. Le pétrole WTI regagne 1%, 59,24$. Et puis l'euro monte de 0,5% et il s'échange contre 1,1874$.
Après 4 jours de pause pour les fêtes de Pâques, le CAC 40 termine dans le vert et il retrouve ce soir son plus haut niveau depuis 2007.
Voilà, le CAC 40 avance de 0,47%, 6131 points ce soir. On est donc au plus haut depuis 14 ans et c'est là aussi grâce aux espoirs de reprise économique. On a suivi Air France KLM aujourd'hui. La Commission européenne a donné son accord à une nouvelle aide de l'État d'un montant pouvant aller jusqu'à 4 milliards d'euros. L'action, elle gagne 1,6% ce soir. Et puis ailleurs, en Europe, c'est du vert pour Londres, plus 1,3%. Francfort, Amsterdam et Madrid gagnent 0,7%, Milan plus 0,2%. Et à Paris, Julien, le CAC 40 monte de 0,5%, 6131 points.
Au plus haut donc depuis 14 ans, ce qui paraît complètement inconcevable vu la crise économique qu'on traverse. Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à jeudi donc, puisque demain il y a une soirée spéciale foot. Bayern Munich PSG à suivre en intégralité sur Europe 1. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Martin Vial.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de l'Agence des participations de l'État. C'est l'organisme qui gère toutes les participations de l'État dans des entreprises. Et justement, si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que l'on a appris que vous allez sauver Air France. 4 milliards d'euros en plus pour Air France. Alors pour être précis, 3 milliards d'euros de prêts que vous aviez déjà fait, ça va devenir un prêt sur très long terme, plus 1 milliard d'euros d'argent frais. Ça fait que vous allez pouvoir monter au capital d'Air France à hauteur de 30%. C'est du jamais vu depuis la fusion avec KLM, c'est-à-dire depuis 2004. C'est ça le montage, Martin Vial ?
D'abord, je voudrais dire que c'est une très bonne nouvelle pour Air France, KLM, et singulièrement pour Air France, parce que ça va permettre à la compagnie de reprendre son activité à partir, je l'espère, de cet été, de façon normale, dans de meilleures conditions financières. Et puis c'est une très bonne nouvelle pour le secteur aéronautique, vous le savez, le secteur aéronautique en France, c'est près de 400 000 emplois, c'est l'un des premiers clients, Air France est l'un des premiers clients d'Airbus, c'est aussi évidemment une compagnie qui assure l'attractivité de la France au plan international.
Soyons très clairs, Martin Vial, c'est la pérennité d'Air France qui était en jeu, c'est bien ça ?
Oui, parce qu'Air France, comme toutes les grandes compagnies aériennes mondiales, a perdu beaucoup d'argent en 2020. Le groupe a perdu 7 milliards d'euros et continuera encore à perdre de l'argent, évidemment, en 2021. Et donc, ces compagnies ont besoin d'avoir un soutien de leurs actionnaires. Et c'est ce que nous faisons. L'État s'engage, en effet, fortement pour aider et supporter Air France avec en effet ce prêt de très long terme et cette participation à l'augmentation de capital. Cela va donner une nouvelle sécurisation du bilan de l'entreprise.
Avec tout ce que vous nous dites là, Martin Vial, il y a une question qui s'impose. Ça va suffire ?
Est-ce que c'est suffisant ? D'abord, je voudrais dire que c'est un appui considérable. C'est 4 milliards d'euros, vous venez de le rappeler. Deuxièmement, le groupe vient d'annoncer ce matin qu'il y aurait sans doute la préparation d'une deuxième phase de recapitalisation qui pourrait intervenir d'ici le printemps 2022. Et troisièmement, Bruno Le Maire l'a rappelé ce matin, nous avons souhaité être très pragmatique dans ce soutien à l'entreprise. Il y a un an, un soutien avec un prêt direct de l'État et puis une garantie de l'État sur un prêt bancaire de 4 milliards d'euros. Maintenant, c'est un soutien en capital, ou en renforcement du bilan de 4 milliards d'euros. Et puis, un peu plus tard sans doute, c'est un nouveau soutien.
Mais est-ce qu'en échange de tout cet argent, vous allez demander plus d'efforts aux salariés? Il y a déjà en ce moment un plan d'économie qui touche le personnel.
Le plan qui a été décidé à l'été dernier, en contrepartie des premiers efforts de l'État que j'ai évoqués, ce plan a commencé à être mis en œuvre. Il est normal que l'argent public, dans des proportions aussi considérables, puisse avoir comme contrepartie un effort de compétitivité. C'est indispensable. Personne ne comprendrait qu'on mette autant d'argent dans la compagnie sans que l'entreprise redevienne compétitive à la sortie de la crise. Donc c'est le sens du plan qui a été engagé.
Mais Martin Vial, est-ce qu'il faut aller plus loin, là aussi, au regard d'une crise qui est beaucoup plus dure qu'escomptée ?
Écoutez, à ce stade, il faut déjà déployer le plan qui a été décidé l'année dernière, notamment la refonte du réseau domestique, le fait que dorénavant doivent être interdits les vols domestiques lorsqu'il y a la possibilité d'accéder à des trajets en moins de 2h30 en train, et puis d'autres mesures de productivité pour ce groupe. Il faut que ce plan soit déployé, il est en cours, et nous verrons une fois que ce plan sera totalement déployé.
Alors, la Commission européenne a imposé des contreparties à Air France. Air France va devoir céder 18 créneaux, par exemple des lignes comme Paris-Barcelone, Paris-Nice, au départ d'Orly. Ces créneaux, c'est vraiment l'or noir des compagnies. 18 créneaux, vous vous dites quoi ? ouf de soulagement, ça aurait pu être pire, on a bien négocié, ou c'est toujours beaucoup trop ?
Cette négociation avec la Commission a été difficile depuis 4 mois, et la référence pour cette contrepartie, ce sont les créneaux qui ont été accordés par Lufthansa à la concurrence. Lufthansa a dû céder 48 créneaux au total sur l'aéroport de Francfort et sur l'aéroport de Munich. Air France devra céder 18 créneaux sur l'aéroport d'Orly, avec une condition essentielle, c'est que les bénéficiaires de ces créneaux devront être basés à Orly, c'est-à-dire respecter intégralement les règles fiscales et sociales qui s'imposent aux compagnies aériennes.
Mais est-ce qu'on connaît déjà aujourd'hui les créneaux qu'Air France va devoir céder ?
Non, on ne le connaît pas, puisque c'est un mécanisme d'appel d'offres qui sera mené sous l'égide de la Commission. Je voudrais simplement dire que...
Mais là encore, soyons clairs, Martin Vial, c'est les créneaux les plus rentables que Air France va devoir céder.
Je termine ce que je voulais dire. Ce sont ces dispositions qui vont permettre d'assurer une vraie compétition. C'est-à-dire qu'en face d'Air France à Orly, les bénéficiaires seront obligés d'utiliser les mêmes règles sociales et fiscales. Alors, est-ce que ce sont les créneaux les plus, les plus rentables ? Non, ce sont des créneaux qui seront répartis sur toute la journée. Et évidemment, dans la négociation, sans rentrer dans le détail, nous avons fait en sorte que soient préservés aussi les créneaux les plus sensibles en début et en fin de journée.
Alors, on vient de l'entendre pour Air France. Est-ce que, d'après vous, c'est la seule entreprise que vous allez devoir recapitaliser ? Est-ce que des entreprises comme Renault, EDF, vont aussi avoir besoin de votre aide ?
Écoutez, les entreprises que vous venez de citer n'ont pas besoin de renforcer leur capital aujourd'hui. Nous avons renforcé le capital de la SNCF en décembre dernier à hauteur de 4 milliards d'euros. Et effectivement, c'est le secteur des transports qui est le secteur le plus affecté par cette crise.
Un grand merci, Martin Vial. Je rappelle que vous êtes le président de l'Agence des participations de l'État. Moi, je vous dis à jeudi, puisque demain, grosse soirée de football à suivre en direct sur Europe 1. Donc à jeudi, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. On vous retrouvera également en revanche demain à 13h dans la France Bouge avec Carole Ferry. Émission spéciale de soutien aux jeunes. Vous ferez un point sur les emplois saisonniers avec votre invité, le patron du parc Astérix. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Politiques et médecins, un couple en pleine crise, titre l'Opinion. Un an après le début de l'épidémie, les relations se sont fortement dégradées entre gouvernants et scientifiques, à tel point qu'Emmanuel Macron a pris ses distances avec son propre conseil scientifique dont les avis sont publiés de plus en plus tardivement et sont de moins en moins suivis des faits, note le journal libéral. Explication de l'Élysée, d'autres critères se sont apposés avant toute décision. Il n'y a pas que le médical, il y a aussi des facteurs économiques, politiques et sociétaux. Mais il y a aussi une autre explication avancée par l'Opinion. Le pouvoir médiatique compte acquis les médecins depuis un an. Axel Kahn, Gilbert Deray, Éric Combes, Gilles Pialoux, Karine Lacombe ou encore Arnaud Fontanet. Autant de noms qui ne sont plus inconnus des Français. Un lobby insupportable pour certains politiques, à commencer par Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui pourrait bientôt avoir un autre souci de taille. Édouard Philippe, loyal ou rival, c'est le titre à la une de Libération qui revient sur le retour en pleine lumière de l'ex-premier ministre à un an de la présidentielle. Le maire du Havre sort demain un livre dont la publication a ouvert les spéculations sur ses intentions futures. Édouard Philippe a beau afficher une loyauté de façade au président, il affirme par ailleurs aimer être aux manettes. Voilà ce qui inquiète le premier cercle du chef de l'État. On n'a pas oublié qu'Emmanuel Macron s'est lui-même organisé dans le dos de François Hollande en 2017. Ensuite, un chef de gouvernement qui quitte Matignon plus populaire qu'il y est entré, tout en ayant eu à gérer le premier confinement. C'est assez rare, écrit Libération. Un conseiller ministériel qui frissonne à l'idée que Philippe 2022 soit la meilleure des hypothèses pour empêcher Marine Le Pen de l'emporter admet, c'est sûr que s'il continue comme ça et s'avère mieux placé que Macron dans les sondages, ça peut vraiment nous embêter. On termine avec le Figaro Echo qui s'intéresse à une villa pas comme les autres, celle où a été filmée une scène mythique du Parrain de Francis Ford Coppola et plus récemment des images du film de Beyoncé. Une magnifique demeure située à Beverly Hills qui, il y a 5 ans, était proposée pour la modique somme de 195 millions de dollars. Aujourd'hui, elle est à vendre moitié prix, 90 millions seulement, entre guillemets. Son propriétaire est criblé de dettes et sa société en faillite. Affaire à saisir donc, si vous avez les moyens de vous offrir cette villa de 18 chambres où JFK et Jackie Kennedy ont passé leur lune de miel.